Alors du coup, parler de la commande qui m'avait été passée, c'était de parler de fécondité. J'en suis parfaitement incapable. Et donc du coup, j'ai transformé le thème en fructifier, porter du fruit. Parce qu'il me semble que précisément par les temps qui courent, c'est une bonne question de se demander qu'est-ce que ça veut dire que porter du fruit. Parce que précisément, dans un certain nombre de communautés et de communautés nouvelles qui ont eu beaucoup de succès, on a peut-être trop rapidement considéré que porter du fruit, c'était le nombre de personnes qui étaient présentes dans ces communautés et que c'est un peu réducteur et que peut-être que fructifier et multiplier, ce n'est pas exactement la même chose. Donc du coup, quand vous m'avez demandé quelque chose autour de la fécondité, j'ai vraiment séché complètement. Je ne suis pas théologienne moraliste, ce n'est pas du tout mon truc. Je suis assez convaincue que dans l'atmosphère actuelle, la parole de l'Église sur la morale sexuelle doit être réduite au silence. Donc je n'allais pas m'amuser à parler alors que j'estime qu'il faut qu'on se taise. Mais en revanche, peut-être que la question des fruits pouvait être intéressante. Donc c'est ce que je vous propose. Ça va être bien modeste, et puis on va faire comme on peut. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Parce que le premier mot que Dieu adresse à l'homme dans la Genèse, alors j'espère que vous avez des Bibles, ça va essentiellement être un topo biblique. Le premier mot que Dieu adresse à l'homme dans la Genèse, au chapitre 1, verset 28, c'est « fructifier et multiplier ». En grec, « pérou ou rebou ». Il me semble que si le texte prend la peine de distinguer ces deux verbes, c'est qu'ils ne sont pas synonymes. Fructifier ou porter du fruit vient de l'hébreu para, qui, au contraire de multiplier, ne signifie pas seulement la reproduction, mais le fait de porter du fruit. Alors dans la Genèse, quand vous reprendrez le texte, les arbres à fruits ont été créés au troisième jour, chacun ayant pour mission de donner du fruit selon son espèce. Là, c'est en Genèse 1, 11, 12. Les animaux du ciel et des eaux, créés le cinquième jour, ont reçu eux aussi pour mission de fructifier et de se multiplier. Et là, le texte est sans ambiguïté, il s'agit vraiment de multiplier. Emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc là, voilà, le nombre... Que les oiseaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Fructifiez, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Heureusement qu'il y en avait beaucoup, parce que maintenant, vu le peu qui reste, il fallait mieux qu'il y ait un peu d'avance. Et lorsqu'il crée l'être humain le sixième jour, après avoir créé les animaux de la terre, pour l'être humain, l'emphase n'est pas mise sur la multiplication, mais sur la façon de dominer la création. Et je vais vous lire les versets 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, donc fructifiez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez, et ça c'est tout à fait différent par rapport aux animaux, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui rampent sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toutes les verdures des plantes et il en fut ainsi. » Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Donc les arbres fruitiers sont donnés comme nourriture aux hommes. Le régime alimentaire de l'être humain dans la Genèse est végétarien et les animaux n'ont rien à craindre de lui. Alors si vous avez peut-être lu ce texte de Paul Beauchamp, bibliste éminent jésuite, qui écrit, si ma mémoire est bonne, dans un texte qui doit s'appeler « Parler d'écriture sainte », qui est un petit recueil... assez court et extrêmement bien. Il commente la Genèse, il dit grosso modo, on raconte deux fois la création du monde dans la Genèse, en Genèse 1 et 2, et puis après en Genèse 9, après Noé. C'est exactement les mêmes textes, quand on compare, c'est exactement pareil. Une fois que Noé a repris terre sur la terre ferme, on va lui dire « fructifiez, multipliez, emplissez la terre, ta-ta-ta-ta-ta ». Mais il y aura une nuance, c'est qu'après l'arche, après Noé, l'homme deviendra la terreur des animaux, il va dominer par la terreur. Alors que là, en Genèse 1 et 2, il domine par sa parole. Pour prendre une expression de Philippe Lefebvre, qui m'a bien orienté dans cette recherche, il dit, Philippe, que finalement, l'homme est amené à être d'une manière seigneuriale dans le monde. Nous avons à régner. Et entre parenthèses, si nous avons été baptisés prêtres, prophètes et rois, c'est que nous avons à régner sur nos vies. Et le verbe hébreu « dominer » de la Genèse, « rada », signifie « régner en souverain ». On trouvera un équivalent de ce terme dans les évangiles, lorsque Jésus parle de sa royauté. On traduit souvent le royaume de Dieu, et je trouve que ce serait pertinent, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu, de traduire par la royauté de Dieu, ça nous permet d'entendre le texte de façon un peu neuve. Mon royaume n'est pas de ce monde, ma royauté n'est pas de ce monde, et ainsi de suite. Parce que la royauté, ça nous concerne. Nous avons à régner avec le Christ, il nous a donné de régner avec lui. Et la royauté, c'est la participation à sa manière d'être au monde, qui est une manière seigneuriale. Et cette manière seigneuriale, c'est de dominer, non pas par la terreur précisément, mais bien par la parole. Et donc par une parole ajustée. Alors l'histoire avec les fruits, ça commence assez vite, puisque dès Genèse 3, il va être question de la dévoration du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à la suite de cela, la violence s'installe sur la terre. Et ce que je vous disais tout de suite, si vous comparez Genèse 2 et Genèse 9, donc, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, etc. Et là, on a « Soyez la crainte et l'effroi » dans Genèse 9, « Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. » Voilà. Et le verbe « rada », dominer, donc régner de façon seigneuriale par la parole, a disparu. Donc du coup, peut-être que fructifier, si ce n'est pas multiplié, qu'est-ce que ça peut avoir comme sens pour nous ? Qu'est-ce que c'est que fructifier quand la parole ne suffit plus à régner de manière seigneuriale ? Nous qui sommes des gens de l'après-naufrage, si je puis dire, et là, du milieu du naufrage, même aujourd'hui, on peut dire, comment, qu'est-ce que ça signifie que ce qui nous a quand même été donné, c'est de fructifier. Voilà. Et je crois vraiment que fructifier a quelque chose à voir avec la souveraineté d'une existence. Donc ça, si vous voulez, c'est une sorte de grosse introduction. Et je vais continuer mon enquête en allant voir où le verbe fructifier va réapparaître. En tout cas, au début dans la Bible. Alors tout d'abord, le verbe fructifier va réapparaître avec chacun des grands patriarches de la Genèse. Alors, vous savez que les premiers récits sont tissés de couples stériles. Et donc on va petit à petit regarder ce qu'ils peuvent nous dire du fait de fructifier. Alors tout d'abord, Abraham, qui est quand même le plus connu dans l'affaire. Donc on connaît l'histoire. Sarah, son épouse, est âgée, ils n'ont pas d'enfant, malgré la promesse reçue à Abraham au moment où le Seigneur l'a invité à quitter son pays, « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai. » Et donc ça, c'est en Genèse 12. Quelques trois chapitres plus loin, Abraham s'inquiète un peu, il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abram, et dit « Mon Seigneur, que me donnerais-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Et donc, sur les bons conseils de Sarai, qui lui propose de s'unir à Agar, la servante égyptienne, Abraham va avoir son premier fils, Ismaël. Mais ce n'est pas, lui, le fruit promis. Donc c'est intéressant aussi, voilà un enfant qui est absolument le fils d'Abraham et qui, pour autant, n'est pas le fruit qu'Abraham attend. Et alors, après l'alliance célébrée entre Abraham et son Seigneur, instaurée dans sa chair par la circoncision et le changement de nom, Abraham devient Abraham et Sarai devient Sarah. À ce moment-là, Abraham reçoit non plus seulement la promesse d'une descendance ou d'un grand peuple, mais le texte nous dit qu'il lui est promis qu'il va porter du fruit, beaucoup, beaucoup. Elle va porter du fruit, beaucoup, beaucoup. Et Ismaël, le premier fils, il lui est aussi promis de porter du fruit et de multiplier. Alors, si on regarde bien la différence entre Genèse 17, 6 et Genèse 17, 20, je vous saoule avec des détails, mais ce n'est pas des détails. Donc voilà, Dieu parle à Abraham, et dans la Bible de Jérusalem, il lui dit « Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. » Le mot à mot du texte est « Tu vas porter du fruit, beaucoup, beaucoup. » Alors que, quand il s'adresse à Ismaël, donc en Genèse 17, 20, quelques versets plus tard, je le rendrai fécond et je le ferai croître extrêmement. Et donc ce qui est dit, enfin littéralement d'Ismaël, je le ferai porter du fruit et je le multiplierai beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que le beaucoup, beaucoup pour Ismaël, c'est multiplier, et le beaucoup, beaucoup pour Abraham, c'est surporter du fruit. Donc Ismaël va être très nombreux et Abraham va être très fructueux. Isaac, lui, ne reçoit pas la promesse de fructifier. Le pauvre personnage d'Isaac, il est un peu terne dans l'affaire. Mais simplement, il va recevoir la promesse de multiplier. Alors, Isaac, chacun sa spécialité. Isaac, son truc à lui, c'est de creuser des puits. Donc, il fait des trous partout, il creuse des puits. Mais c'est très utile, parce que ça permet d'apporter l'eau là où elle manque, afin que la vie soit possible. Voilà. Donc tout le monde n'a pas la même aura, c'est dans la Bible comme dans nos vies. Il y en a qui ont un rôle plus discret, mais heureusement qu'ils sont là pour permettre à la vie de grandir et de croître. L'Évangile nous apprend que l'un sème et l'autre moissonne. Pour autant, Isaac est conscient que ce qu'il fait, c'est peut-être plus discret, mais c'est important quand même. Je vous cite cette fois Genèse 26. Mais c'est marrant comme il creuse tout le temps des puits. Hein. Isaac creusa de nouveau les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, ils trouvèrent là un puits d'eau vive, etc., 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 etc. Donc il baptise des puits, il nomma ce puits Ézek, il en creuse un autre, il le nomme Sitna, il en creuse un autre, etc. Il le nomme Réoboth et il dit « Maintenant, le Seigneur nous a donné le champ libre pour que nous portions du fruit dans le pays. » Donc en fait, Isaac, c'est lui qui va faire le relais entre son père, Abraham, et son fils, Jacob. Et Jacob, lui, va recevoir une promesse, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier pour que tu deviennes une assemblée de peuples. Donc ça, on le retrouve plein de fois pour Jacob. En Genèse 28, en Genèse 35. Et ça ne va pas forcément se passer très très facilement, parce qu'au début, vous savez que notre pauvre Jacob, qui est quand même raide amoureux de Rachel, Rachel est sans enfant. Et du coup, il va contourner Rachel, malgré lui, puisqu'on va coller dans son lit la sœur de Rachel. Il va d'abord avoir des enfants avec Léa, puis des enfants avec la servante de Léa, puis des enfants avec la servante de Rachel, et enfin, à la fin, des enfants avec Rachel. Et dans les fils de Rachel, il y en a deux. Il y a donc Joseph et Benjamin. Joseph, dont le nom signifie que Dieu en ajoute un autre, comme si dans le nom même de Joseph, il y avait la promesse d'un frère. Et d'un autre fils qui sera Benjamin. Et Rachel va mourir en couche lors de la naissance de Benjamin. Alors Joseph, on va continuer notre petite enquête dans la Genèse, lui non plus ne reçoit pas comme tel la promesse de fructifier, mais sa vie est tout à fait marquée par la question des fruits, puisque, en fait, vous savez que Joseph, il devait être quand même un petit peu pénible, considérant que c'est devant lui que ses frères doivent s'incliner, considérant qu'il est le frère préféré de son père, donc les autres, je pense qu'ils en ont eu jusque-là, et il a reçu le don d'interpréter les rêves. Et donc voilà qu'il rêve, enfin qu'il réussit à interpréter, une fois qu'il est esclave en Égypte, le rêve de Pharaon. Et il interprète ce fameux rêve où il y a des vaches grasses et des vaches maigres, en lui disant qu'il y aura des années d'abondance suivies d'années de famine. Et donc il y a bien un truc autour de la fructification là-dedans. Et il va le dire, hein, « Dieu m'a fait porter du fruit au pays de ma misère. Alors, ce qui est assez beau dans l'histoire de Joseph, c'est qu'en fin de compte, il n'aura jamais aucune rancune vis-à-vis de ses frères, puisqu'il dira à ses frères, une fois qu'ils l'ont retrouvé, et puis surtout une fois qu'ils l'ont reconnu, « Ne fallait-il pas que je sois vendu en avant de vous pour finalement vous donner à manger ?» Donc il retourne le mal qui lui a été fait en bien. Et Joseph va avoir aussi des enfants, en tout cas au moins deux, Manassé et Éphraïm. Eh bien justement, Éphraïm, l'étymologie de son nom, a quelque chose à voir avec le mot « fruit ». Le mot « Éphraïm », c'est un duel en hébreu, et donc ça veut dire « celui qui porte doublement du fruit ». Et c'est encore une fois Éphraïm qui est le cadet, qui va recevoir la bénédiction destinée à l'aîné. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de destin en fait. Dans l'histoire biblique comme dans l'évangile, le destin peut être renversé. Celui qu'on attend comme étant l'aîné, bien souvent c'est pas le bon, c'est pas l'aîné. Et en fait je trouve que ça ressemble tellement à notre histoire contemporaine. C'est celui dont on pense qu'il est un saint, et ben c'est pas lui, c'est peut-être un peu à côté qu'il y en a un saint qui est caché et qu'on n'a pas vu. Celui qu'on met en avant, peut-être à côté de lui, il faut chercher quelqu'un qu'on ne met pas en avant, qui est peut-être la bonne personne, grâce à qui il a tenu bon, ainsi de suite. Et ça, c'est complètement dans l'Évangile, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je suis très redevable à Philippe Lefebvre, que peut-être un jour vous pourriez inviter, qui... C'est déjà fait ? Ah, ben vous avez bien fait. Quand il parle des personnages épisodiques dans la Bible, où il montre bien que ce sont des personnages inconnus qui, parfois, changent le cours de l'histoire, et font que tel ou tel va à droite au lieu d'aller à gauche, etc. Alors en Genèse 49, au moment où Jacob va mourir, il bénit chacun de ses 12 fils, et voilà comment il va bénir Joseph. Joseph est un plan fécond, enfin littéralement, mot à mot, et le fils d'une qui porte fruit, Joseph, fils d'une qui porte fruit, c'est répété deux fois. Est un plant fécond près de la source dont les tiges franchissent le mur. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas, bénédiction des mamelles et du sein, bénédiction des épis et des fleurs, bénédiction des montagnes antiques, attirance des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre les frères. Autrement dit, la création entière bénit Joseph, qui a sauvé les siens de la famine sans tirer aucune rancune du sort que ses frères lui avaient fait subir. Il est plus que les autres, au bout du compte, le fils attendu, le fruit du ventre d'Abraham. Il me semble que dans toute l'histoire de la Genèse, ce qui nous est raconté, c'est que le fruit promis à Abraham, au bout du compte, c'est Joseph. Et dans une perspective chrétienne, on pourrait dire c'est le Christ. Donc on a chacun, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, chacun qui, à sa manière, a porté du fruit. Pas seulement parce qu'ils ont eu une descendance, mais surtout parce que leur vie a rayonné bien au-delà de cette descendance. Il me semble que de ce point de vue-là, fructifier, c'est recevoir la vie d'ailleurs, de Dieu qui seul donne de la donner. Et pour ces hommes, comme pour Sarah, Rebecca, Rachel ou Asnath, il s'agit de recevoir la vie de Dieu comme l'arbre se nourrit de la sève qui coule à travers lui. Et ça ne se passe pas facilement, parce que si vous vous souvenez d'Abraham, à un moment, il croit comprendre que Dieu réclame la vie d'Isaac. Et donc, il va être tenté de croire que Dieu réclame le sang de son fils. Je crois que c'est une tentation, que Dieu réclamerait le plus précieux de nos vies. Alors que ce n'est pas ça qu'il réclame, il réclame qu'on accueille la vie qu'il donne. Jacob, lui, va se battre contre ses fantômes. Il réussit à ne pas tuer son frère. Ils réussissent avec Ésaü à ne pas s'entretuer. Mais ça se passe quand même pas très bien entre les deux frères. C'est un petit peu compliqué. Et puis Joseph, il est une figure christique par excellence. Il est vendu par ses frères, considéré comme mort, envoyé en terre étrangère. Et c'est de la terre étrangère qu'il va pouvoir sauver ses frères et les nourrir. Donc, voilà, apporter du fruit, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'était mon premier temps. Alors, mon deuxième temps, j'aurai que deux temps d'ailleurs, à suite demain. Le deuxième temps, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fruit ? Alors ça, c'est un truc que j'ai commencé à travailler pour vous. Autant dire, c'est pas tout à fait abouti encore. Hein. Donc vous êtes un peu les cobayes de l'affaire. Mais après, on discutera. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fruit ? Alors j'essaie de réfléchir à froid, en me disant, c'est, voilà, un fruit, c'est quoi ? Alors à la fois, c'est la finalité de l'arbre. L'arbre, a priori, fruitier, il est là pour donner des fruits. C'est l'accomplissement de l'arbre. Et en même temps, le fruit, il n'est pas une fin en soi, puisqu'il porte en lui la possibilité de l'arbre, la possibilité de se multiplier. Donc, il a une sorte de double finalité, notre fruit. C'est que d'une part, il a pour première finalité de nourrir. La Bible a un mot pour signifier l'arbre fruitier. Ça veut dire arbre à nourriture. Donc, d'une part, il va nous servir de nourriture, comme le demande la Genèse, hein, de soutenir la vie qui s'en nourrit. Et donc, du coup, si on mange la pomme, on renonce à ce que la pomme donne un pommier. Enfin, on peut garder les graines et les replanter, mais bon. En gros, si on mange le fruit, on renonce à ce que ce fruit donne un arbre. Et en même temps, il faut bien que, enfin, pour qu'il y ait d'autres arbres, il faut que des fruits donnent des arbres. Donc il y a une sorte de double finalité du fruit. Mais la finalité la plus importante, enfin, il faut qu'il y ait d'autres arbres pour que demain, il y ait encore des gens qui puissent être nourris par les arbres. Donc, peut-être que la finalité la plus importante, ce sont les fruits à nourriture. À quoi bon produire des fruits s'il n'y a plus personne à nourrir ? Et donc, du coup, je crois que c'est pour ça que fructifier est plus important que multiplier. Et alors, je vais essayer de vous donner trois... Alors, attendez voir. Un, deux, trois... Quatre pistes que j'ai essayé d'élaborer à partir de fructifier. Tout d'abord, fructifier n'est pas multiplier. Et en général, le texte biblique est extrêmement sévère pour toutes les tentatives de calcul et de dénombrement qui visent à mettre la main sur ce que l'on dénombre. On ne peut pas mesurer un homme dans la tradition hébraïque. La descendance d'Abraham ne peut pas se dénombrer. Seul le Seigneur peut compter le nombre des étoiles et lui donner un nom, dit le psaume. Et vous savez que David, un jour où il a été tenté de dénombrer son peuple, ça ne s'est pas du tout bien passé pour lui. Il s'est retrouvé avec un ange exterminateur au coin du nez qui lui a proposé 3 jours de peste, 3 mois de je ne sais plus quoi, ou 3 ans de guerre, 3 ans de famine, ou 3 mois de guerre et 3 ans de famine, je ne sais plus. Finalement, il s'est dit, bon, on va choisir la peste, ça ira plus vite. Mais ça s'est mal passé quand même, cette affaire. Donc, la méfiance envers le geste de dénombrer devrait nous mettre en garde. Nous avons toujours la tentation de nous compter. Et je voyais, par exemple, quand j'ai commencé à écrire ce truc, il y avait un rapport de l'agence Fides, qui doit s'occuper de la foi dans le monde, je suppose, et qui disait « Le nombre de catholiques augmente dans le monde ». Eh bien, la belle affaire. Est-ce qu'il y a un concours ? Est-ce qu'il faut être le plus puissant ? Et quand l'Évangile nous dit d'aller par toute la terre et qu'il y ait des disciples du Christ par toute la terre, il ne s'agit pas que tous les pays deviennent chrétiens. Je ne crois pas que ce soit ça le message. Qu'il faille aller partout, oui. Ce qui veut dire dans tous les milieux, auprès de tout le monde. Personne ne peut être privé de l'Évangile. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas du tout dire que demain, le monde entier sera chrétien. Je ne le crois pas. Il ne s'agit donc pas de savoir qui est le plus puissant, qui a le plus d'influence, mais au contraire, la parole de Dieu vise à encourager le faible, le pauvre, le petit reste, lorsque les puissants sont détruits. Et donc tout ce qui a beaucoup de succès, ce qui mobilise les foules, n'est pas nécessairement un fruit de l'esprit. Ah, je me suis un peu lâchée, hein. Les communautés qui attirent beaucoup de jeunes, ou en tout cas plus qu'ailleurs, peuvent facilement nous fasciner. Elles auraient les promesses de la vie éternelle que les autres, nous les vieilles, on a perdues. Alors, il ne s'agit pas du tout de tomber dans du ressentiment, parce que ce serait l'autre face de la même médaille, qui serait aussi fascinée par le chiffre. Mais ce n'est pas parce qu'une communauté, entre guillemets, marche, que cela signifie fructifier. Le critère du chiffre isolé du reste n'est pas un bon critère. Et nous avons aujourd'hui la tentation de juger du fruit de nos œuvres avec les critères mondains. Et pourtant, il convient de nous en garder. Et le critère mondain, nous savons bien que c'est celui du chiffre. Le succès d'un film dépend du nombre de spectateurs dans les premières semaines. La valeur d'un chercheur se mesure non pas à la qualité de ses articles, mais à leur nombre. Vous connaissez le « publish or perish ». Et chacun peut compléter la longue liste de ces exemples. Or, Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, insiste « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Première note, fructifier n'est pas multiplier. Deuxième note, le fruit n'est pas extérieur, mais d'abord intérieur. La seconde caractéristique de la fructification selon la Bible est sensible dès les premiers chapitres de la Genèse. Le véritable fruit n'est pas extérieur, mais intérieur. Le jardin d'Éden, avec ses arbres séduisants à voir et bons à manger, sont créés en Genèse 2. Et alors, le récit raconte que le Seigneur décide de donner une compagnie à l'être humain, car il ne sera lui-même que s'il est pour un autre. Alors, il y a les animaux qui arrivent et qui ne suffisent pas à tenir lieu de compagnie assortie. C'est alors que Dieu fait tomber l'être humain dans le sommeil et tire de son côté une femme. Alors, l'homme et la femme se reconnaissent comme issus d'une unique chair et voués à devenir une seule chair. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et le plus important, c'est que, parce qu'ils sont de même origine, nés de la terre et du souffle de Dieu, ils peuvent se parler. Comme Dieu leur parle et comme ils peuvent parler à Dieu. Et voilà qu'il leur est donné de régner en seigneur sur la terre, puisqu'ils peuvent, par la parole, exister. Et c'est l'union avec l'être qui partage à l'intérieur de lui-même la même chair habitée par la parole, qui permet une union, qui peut porter du fruit. Parce que tout ce qui est extérieur à l'être humain, les animaux, les arbres et les fruits, ils n'ont pas en eux la parole et la possibilité de parler l'un avec l'autre. Or, la tentation du serpent, et alors là c'est vraiment, encore une fois, Philippe Lefebvre qui a cette formule super juste, le serpent de Genèse 3 suggère que le fruit est en dehors d'eux, et non pas en eux, et qu'on peut mettre la main sur le fruit, qu'on peut accaparer le fruit. Et toute l'épaisseur de la Bible pourrait être lue comme le long apprentissage que chaque génération doit refaire pour apprendre que porter du fruit, ce n'est pas mettre la main sur un truc à l'extérieur de soi, mais c'est bien autour de l'échange possible de paroles qu'une fructification peut advenir. Et les matriarches stériles de la Genèse disent à peu près, à mon avis, la même chose. Elles nous disent que c'est Dieu qui donne les enfants. Et souvent, elles nous montrent que c'est après s'être parlé dans le couple que l'enfant va naître, alors qu'il ne pouvait pas naître. Alors c'est tout à fait typique, ça, si vous prenez Anne, une de mes patronnes, une de mes ancêtres, dans le livre de Samuel, où... son mari Elkana, visiblement, il ne se parle pas beaucoup. Et à partir du moment où quand même Elkana entend la plainte de Anne, elle va pouvoir aller au temple, pleurer. Et à ce moment-là, il lui est donné d'avoir un fils. Il me semble que dans tous les récits bibliques qui nous sont donnés, la contrainte des couples stériles les oblige à un moment donné à se parler. Parce que porter du fruit ne pourra pas se faire en dehors de ce combat contre la stérilité. Ils doivent ensemble découvrir que le fruit ne va pas de soi, n'est pas sur commande, mais qu'il est d'abord intérieur. Et l'enjeu du fruit, c'est comment recevoir la promesse de Dieu, y croire et apprendre à se parler. Le livre de la Sagesse, beaucoup plus tardif, expose cela avec force. Après avoir annoncé le malheur de celui qui méprise la sagesse, ce livre expose avec une certaine audace la fécondité des femmes stériles. Et le texte biblique nous met en garde contre les fruits d'apparence qui ne sont pas issus d'existences établies, enracinées dans la sagesse de Dieu et dans sa parole. Je vous livre Sagesse, chapitre 4. « Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu, car l'immortalité s'attache à sa mémoire. Elle est en effet connue de Dieu et des hommes. Présente, on l'imite, absente, on la regrette. Dans l'éternité, sainte de la couronne, elle triomphe pour avoir vaincu dans une lutte dont les prix sont sans tache. » mais la nombreuse postérité des impies ne profitera pas. Issue de rejetons bâtards, elle ne poussera pas de racines profondes, elle n'établira pas de bases solides. Même si pour un temps elle monte en branche, mal affermie, elle sera ébranlée par le vent, déracinée par la violence des vents, ses rameaux seront brisés avant d'être formés, leur fruit sera perdu, n'étant pas mûr pour être mangé, impropre à tout usage. » Je trouve que ce passage pour les affaires de mœurs qui touchent à l'Église est spécialement parlant. Hein. La postérité des impies ne profitera pas. C'est quand même... Alors moi, je ne me mets pas du côté des pieux. Hein. Vraiment pas. Parce que quand j'étais jeune sœur, on était nombreuses. On était une petite dizaine, alors que les autres avaient moins de novices et on pensait qu'on était l'avenir de la vie dominicaine. Puis une fois que tout le monde s'est barré, qu'on est resté deux, on a réatterri. Donc je vois bien de quoi il s'agit là. Et du coup, je me disais, mais pourquoi, par exemple, aujourd'hui, sommes-nous pris d'une sorte de fièvre qui nous conduit à béatifier ou canoniser des personnes sans attendre le délai sage de plusieurs décennies, comme autrefois ? Comment ne voyons-nous pas que ce qui monte trop vite en branche est peut-être encore mal affermi ? Peut-être ça va s'affermir. Il ne s'agit pas non plus de tout jeter sous prétexte que voilà, c'est fini, mais peut-être ça va s'affermir, mais soyons prudents. Et je ne pensais pas vous parler le jour où Jean Vanier allait tomber, on allait déboulonner sa statue. Vraiment, je ne pensais pas. Bref, je suis un peu traumatisée par ce truc. Bon. Et donc, nous aurions à ce point peur de notre propre stérilité qu'il nous faudrait absolument des fruits tangibles pour justifier notre existence et notre foi. Donc là, je parle encore une fois de mon point de vue, hein, qui est celui d'une sœur dominicaine apostolique, où, moi je vois bien quand on est en chapitre, la question de la pastorale des vocations revient très souvent. Alors, c'est légitime qu'on se demande comment on fait pour que l'institut dont on pense quand même qu'il a porté des fruits puisse demain porter des fruits. Bien. Mais si ça devient l'unique préoccupation, et si on décide d'aller fonder au Vietnam ou aux Philippines parce que là, il y a des vocations, franchement, on se plante, clairement. Et je pense que moi, mon institut n'est pas indemne de cette tentation. Mais comme plein d'autres trucs de sœur apostolique. Pourquoi avons-nous besoin du succès ? Plutôt que de courir après la nouveauté, ne faut-il pas entendre ce que disent les communautés chrétiennes qui ne font pas de bruit, y compris si elles semblent bien pauvres et peut-être sans avenir ? Et je pense par exemple dans ma province, il y a des sœurs, on est en train de faire des travaux dans la maison qui était la maison provinciale, et pour ce faire, on a délocalisé 14 sœurs âgées pour les mettre ponctuellement dans l'EHPAD qui est à côté, le temps que les travaux... Mais moi, je suis tout à fait... Et alors pour elles, c'était extrêmement difficile et douloureux, c'est-à-dire qu'elles ont quitté leur maison pour aller dans une EHPAD, avec d'autres, âgées comme elles. Hein. Et alors, le rayonnement de ces femmes... Il y en a une qui a du mal à marcher et qui, tous les dimanches que Dieu fait, va chercher des personnes âgées, parfois elles sont complètement à l'ouest, dans le fauteuil roulant, pour les emmener à la messe, qui a lieu dans l'EHPAD. Et la messe a lieu parce que nos sœurs y sont, sinon il n'y aurait pas de messe. Mais parce que du coup, parce qu'elles sont là, il y a un prêtre qui vient régulièrement, enfin bref. Et le rayonnement de ces femmes dans une pauvre EHPAD, alors ça, on n'en va pas en faire un article, mais là, pour le coup, il y a un truc qui semble ajusté, en tout cas, voilà. Alors, on va me dire, c'est une consolation à bon marché parce que mon institut ne recrute plus. Très bien. Très bien. En même temps, on voit bien que le vocabulaire, simplement parler, est-ce que vous recrutez ? Mais purée, on n'est pas des agences de recrutement, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se satisfaire d'une église qui, sous nos cieux, ressemble quand même beaucoup à une vieille femme stérile ? Pas nécessairement. La question n'est pas correctement posée. La bonne question est celle du fruit. Comment la parole de Dieu reçue dans l'Évangile, cette parole qui, pour nous, est le Christ, comment est-ce que cette parole bouleverse ou pas nos existences ? Est-ce que c'est vrai que cette parole nous rend libres ? Est-ce que c'est vrai qu'elle nous aide à faire la vérité ? Est-ce que c'est vrai que celui qui est nourri de la parole de Dieu devient de plus en plus lui-même, un être singulier et le reflet unique du visage du Christ dont il a reçu l'empreinte ? Et qui ne peut être remplacé par personne d'autre que lui. C'est ça la question du fruit. C'est comment chacun d'entre nous, avec son histoire, etc., devient qui il est. Il n'y a pas d'autre question que celle-là. Du coup, la troisième petite remarque que je voulais faire, c'est que le fruit n'est pas à saisir, mais à recevoir. c'est un peu la même chose que le truc d'avant, mais bon. Y compris si c'est un fruit intérieur. La vie spirituelle ne relève pas de la performance, et les échelles de vertu qui ont été décrites par les pères de l'Église, ce ne sont pas des échelles qui se montent, ce sont des échelles sur lesquelles on monte et on descend. Voilà. Et le truc le plus frappant, c'est quand même que je crois que la vie spirituelle, c'est une échelle qui se descend, parce que le premier descendu, c'est le Christ, et qu'il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, c'est ce que dit l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Lui qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est vidé de lui-même pour prendre la forme d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, l'invitation de l'Épître est assez claire. Il s'agit d'apprendre du Christ que les dons de Dieu ne sont pas une proie à saisir, mais à recevoir. Et pareil, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, ce fameux passage du bon berger, Jésus va dire « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je me dessaisis de ma vie pour les brebis. Le Père m'aime parce que je me dessaisis. » Alors souvent, la traduction, c'est « je dépose ma vie. Hein. »« Je me dessaisis de ma vie pour la recevoir à nouveau. » Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Voilà. Donc, il y a un truc, je trouve, autour l'idée de fructifier et de l'idée de fécondité, c'est qu'elle ne peut exister que dans un mouvement de dessaisissement de soi. Et là, il y a une petite histoire qu'on pourrait raconter, qui est celle de David. Donc, je retourne dans l'Ancien Testament, au deuxième livre de Samuel. Il y a un passage assez intéressant que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, David est un jeune roi. David, c'est un chouette bonhomme en fait. Hein. Tout lui réussit. Il vient de gagner une guerre contre je ne sais plus qui, les Philistins. Et dans l'euphorie de la victoire, il entreprend de faire monter à Jérusalem l'Arche de l'Alliance. Cette sorte de tente qui abrite la parole de Dieu. Et il y a deux hommes qui sont les fils de Abinadab, chez qui l'arche demeurait, qui conduisent le chariot et qui emmènent l'arche. Donc c'est l'euphorie, tout le monde chante, tout le monde est content, on est dans la victoire, etc. Les deux fils en question s'appellent Uzza et Ahio. David et les siens dansent devant le Seigneur au son de la musique. Et voilà qu'il se passe un truc étrange. Comme on arrivait à l'ère de Nakhon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient verser. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza. Sur place, le Seigneur Dieu le frappa pour cette faute et il mourut là, à côté de l'arche de Dieu. Ambiance. David fut fâché de ce que le Seigneur eut foncé sur Uzza et on donna à ce lieu le nom de Pérès Uzza qu'il a gardé jusqu'à maintenant. Ce jour-là, David eut peur du Seigneur et se dit « Comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi ? » Alors on se dit, mais cette histoire, elle est quand même ultra bizarre. Il y a un brave monsieur qui voit que l'arche est en train de verser, il la retient et paf, il est puni. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et quand on va voir le vocabulaire hébreu, alors je fais semblant de parler hébreu, mais pas du tout. Hein. J'ai fait 3 fois la première année d'hébreu, je me débrouille avec les concordances qui retraduisent tout ça, mais je ne suis pas capable de... Non. Donc c'est juste un vernis. Et donc, en fait, quand on regarde le mot qui est utilisé pour « Uzza étendit la main », en fait, c'est « Uzza saisit l'arche ». Et le verbe « saisir », c'est quand on saisit un ennemi pour lui donner la mort. Et donc, en fait, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Uzza, il met la main sur l'arche. Et c'est parce qu'il met la main sur l'arche que, paf, immédiatement, il se passe un truc. Parce qu'on ne peut pas mettre la main sur la parole de Dieu. Ce n'est pas possible de mettre la main sur la parole de Dieu. Et quand on entend aujourd'hui l'abus d'autorité, notamment dans l'accompagnement spirituel, et je repense, pardonnez-moi, à cette histoire de Jean Vanier, où l'une ou l'autre jeune femme qui témoigne dit bien que c'est en instrumentalisant la parole de Dieu, par une espèce de délire pseudo-biblico n'importe quoi, que du coup on met la main sur l'autre. Mais d'abord c'était la main sur la parole de Dieu. Le verbe en question signifie prendre possession et mettre la main sur, saisir. Et donc, Uza met la main sur l'arche de l'alliance comme on le ferait d'une chose. Du coup, c'est comme si l'arche de l'alliance était à disposition d'Uza. Il la réduit à une sorte d'ustensile dont il peut disposer à sa guise, dont il peut se saisir. Et c'est cela qui déclenche la colère de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas à disposition. Et je crois que David a compris ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il se dit « ouï, 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 ouï ». Il comprend peut-être qu'il a lui-même de la désinvolture vis-à-vis de l'arche. Et du coup, il prend la grave décision de se séparer de l'arche, au moins un temps, de la mettre un peu à distance, et donc l'arche va aller chez son cousin, Obed-Edom, chez qui elle passera 3 mois. Et vous savez que les évangélistes feront le parallèle entre Marie, qui va passer 3 mois chez sa cousine, et l'arche d'alliance, qui a passé 3 mois chez le cousin de David. De même qu'il y aura le parallèle ensuite, quand David va récupérer l'arche, il va danser devant l'arche, de la même façon que Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, danse devant Jésus dans le ventre de Marie. Et ça, le récit de Luc est une allusion directe au texte de Samuel. Autrement dit, ce que Dieu nous donne, ses fruits ou ses dons, sa grâce ou tout simplement la vie, elle est à recevoir et non à saisir. Et Marie va guérir le péché d'Ève par la grâce de son fils qui nous a guéri du péché d'Adam, mettre la main sur le fruit, sur la connaissance. Bon, je ne vous ai pas parlé du fruit de la Genèse, mais en gros, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est d'une certaine manière mettre la main sur le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc nous, en tradition latine, on a beaucoup lu ça comme une convoitise de la chair. Et c'est intéressant d'aller voir ce qu'écrivent les Grecs, parce que toute la tradition orientale pense que c'est une chute de l'esprit et que c'est vraiment vouloir prendre possession des connaissances, vouloir décider par soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, et donc se mettre à la place de Dieu qui seul juge du bien et du mal. Et Dietrich Bonhoeffer, dans un commentaire, dira que la morale chrétienne, ce n'est pas de choisir entre le bien et le mal, parce que ça, c'est la morale païenne. Quand on commence à décider ce qui est bien et ce qui est mal, on se sépare de Dieu parce qu'on en juge par soi-même. Donc la différence entre le jugement par soi-même du bien et du mal et le discernement, ça moi je ne suis pas jésuite pour deux sous, mais je l'ai appris de mes amis jésuites, le discernement ce n'est pas le choix entre un bien et un mal, c'est entre deux maux ou entre deux biens, enfin entre deux biens choisir celui qui me convient le mieux, et entre deux mots, choisir celui qui est le moins pire des deux. Le véritable discernement, c'est ça devant Dieu. Et donc, ce n'est pas se mettre soi-même en position de juge en disant ça c'est bien ou ça c'est mal. Pour conclure, ma troisième ou je ne sais plus quoi, quatrième petit slogan, autour de déposer sa vie et recevoir la vie, c'est plus en guise de conclusion. Alors là, je me suis inspirée de François Julien, philosophe, qui a écrit un livre génial, Les ressources du christianisme. Je ne sais pas si vous avez lu ça. C'est très beau. Bravo. C'est très chouette. Et lui, il va donner, je trouve, d'abondantes et fructueuses pistes de réflexion. Et l'une d'entre elles concerne directement la question des fruits. Alors, je ne sais pas. Il va distinguer en fait entre les mots grecs. Je vais essayer de vous dire ça clairement. Il va distinguer entre le verbe grec « zoé », la vie comme espace où on peut circuler en souverain, et « psyché ». « Psyché », ça nous a donné pour nous « psychisme », mais en grec, c'est plutôt le fait d'être animé par un souffle vital. Ça reprend l'hébreu « nefesh ». Il va opposer, François Julien, enfin il va distinguer plutôt « psyché » et « zoé ». Il va lire l'évangile de Jean, en grec. Je vais prendre petit à petit des citations, vous allez voir. Par exemple, au tout début, dans le prologue de Jean, en lui, dans le Verbe, en Jésus, en lui, le Verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et bien ça, c'est Zoé. Donc, la vie, dans son origine, c'est Zoé. Ou encore, les signes que Jésus a faits. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Zoé. Il dit le passage crucial pour distinguer la vie psychique, psyché, et la vie zoé, c'est au chapitre 10, le fameux texte du bon pasteur. Et là, il faut bien regarder dans le détail du texte. « Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. » Zoé, « Je suis le bon pasteur. » Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il dépose sa psyché pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, Zoé. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon père, ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout. Alors ça, c'est un passage génial. C'est au verset 27-30 du chapitre 10. Mon père... Quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. C'est ce qu'on entend habituellement dans nos Bibles. En fait, on peut parfaitement traduire « Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. » Et le « ce qu'il m'a donné », c'est nous. C'est les hommes que le Père donne comme frères au Fils. Donc nous sommes le cadeau que le Père fait à son Fils. Je trouve que de dire ça, « Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout », c'est top. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et donc la vie spirituelle, la vie dans l'esprit, c'est déposer sa vie psyché, donner de soi, donner de son temps, et pour que d'autres aient la vie, zoé. Et le truc typique, c'est que les jeunes parents qui ont des enfants en bas âge savent bien que leur plus grand bonheur, c'est de perdre leur vie pour que leurs enfants vivent. Et alors voilà ce qu'écrit François Julien. C'est en décoïncidant d'elle-même que se promeut la vie. C'est-à-dire qu'il faut décoller la psyché de la zoé, parce que de donner sa psyché va permettre que l'autre vive de la zoé. Je dépose ma vie, c'est-à-dire que je décoïncide de mon être en vie, adapté qu'il est en sa vie comme en son monde, pour pouvoir porter plus loin, plus amplement, ma capacité de vie. Déposer n'est pas seulement renoncer à sa vie ou la sacrifier, mais plus essentiellement, décoïncider de ce qui, par normalité, se réifie de ma vie et qui la perd. Donc, je trouve que l'idée de se décoïncider, enfin, c'est un terme qu'il utilise... qu'on n'utilise pas habituellement, qui montre bien comment, au bout du compte, recevoir la vie nous permet de donner de la nôtre et que c'est ça, porter du fruit. On pourrait aller, si on suit François Julien, jusqu'à dire que nourrir sa vie, il a un livre qui s'appelle « Nourrir sa vie », c'est en même temps nourrir la vie des autres et finalement déposer notre vie afin qu'elle fructifie comme le grain de blé auquel semble s'identifier Jésus.